Comme vous le savez, on est toujours dans 1 Corinthiens. La première lettre de Paul aux Corinthiens, donc il a beaucoup de choses à leur dire. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait combien ? On a commencé en mai, ça fait plusieurs mois qu'on y est, 7 ou 8 mois déjà, qu'on est dans cette épître. Et c'est pas fini, comme dit la publicité, il y a encore des choses à voir. Paul, il avait beaucoup de choses à dire aux Corinthiens, hein. beaucoup. Et la parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire à nous aussi. Hein. Ce n'était pas juste pour les frères d'il y a quelques siècles en arrière, c'est aussi, et on le voit, je l'espère, vous l'avez compris, qu'il y a beaucoup d'enseignements pour nous aujourd'hui, 2000 ans après, ça nous concerne encore. Alors je vais prier avant de commencer le message, et puis après on regardera dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21-28. Seigneur, en effet, c'est pour nous aussi, Seigneur, si c'était juste un récit historique, ça pourrait être intéressant, Seigneur, d'étudier les mœurs et les traditions, la culture de la Grèce antique, Seigneur, des premiers siècles de l'Église, mais c'est bien une parole vivante qui est devant nous, Seigneur. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est bien plus que cela. C'est un livre d'histoire vraie, mais un livre d'histoire vivante qui était valable il y a 2000 ans et qui l'est encore aujourd'hui. Et si tu tardes, il sera encore valable dans 2000 ans, Seigneur. En tout cas, ta parole est précieuse. Précieuse pour éclairer notre esprit. Seigneur, nous sommes encore dans les ténèbres. Éclaire-nous, Seigneur, remplis-nous de lumière à présent, pour que rien ne soit plus confus en nous et que nous voyons les choses clairement, Seigneur. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, 1 Corinthiens 15, versets 21 à 28. J'enchaîne en fait ce qu'avait prêché en nous la dernière fois. Donc dans 1 Corinthiens 15, c'est une grande partie sur la résurrection. Il y a beaucoup de détails, il y a plusieurs angles à aborder, plusieurs ajouts que l'apôtre fait, on va voir ce matin. Il commence en disant « Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors dans ce passage, Paul, il leur parle de façon prophétique de la fin des temps. Là, il aborde, à un moment, il ouvre une parenthèse, il explique un petit peu ce qui va se passer plus tard. Futur lointain, hein, il y a 2000 ans qu'il a écrit cela, les années, les siècles ont passé, mais il précise déjà les contours de la fin des temps de la fin aussi, hein, d'une certaine façon. C'est vraiment la dernière étape de l'histoire de l'humanité. Et si on regarde ces versets attentivement, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Verset 23. Tout d'abord, verset 23, toute la fin du verset, ça parle de l'avènement de Christ. Verset 24. Donc Christ revient, hein, les morts ressuscitent, Christ est d'abord ressuscité, ensuite ceux qui lui appartiennent ressuscitent, ça va être son avènement, et puis ensuite, quand viendra la fin, ben, il va remettre le royaume à son père, après avoir réduit l'impuissance ou les dominations, etc. Et verset 24, il remet le royaume, et verset 25, il nous dit, oui, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur le marchepied. Donc comprenez bien que ce verset-là, il s'intercale en fait entre 23 et 24 et 25, voilà, le 25 monte entre 23 et 24, mais vous allez voir, je vais vous le détailler si c'est encore un peu confus. Voilà. Le schéma est simple. Premièrement, donc, verset 23. Christ revient, c'est son avènement. D'accord ? Christ revient, les morts ressuscitent, il est déjà ressuscité, il revient. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, si vous êtes un peu familier avec le langage évangélique, ou si vous êtes familier de la Bible, en effet, c'est un terme qui vous est familier, ça veut dire quoi l'enlèvement de l'Église? On va regarder, c'est une étape en fait, Christ va revenir, Christ est parti, il y a déjà, tu vous tends les amis, hein, ça fait 20 siècles, ça fait déjà 20 siècles qu'il est parti, Christ a dit qu'il allait revenir. Il l'a dit de façon très claire. Et Paul en a parlé. Ici, il fait juste un petit point, il fait juste un petit rappel hein, de ce qu'il a dû certainement prêcher. Mais dans la lettre aux Thessaloniciens, il le développe beaucoup plus. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Ça, c'est la première étape de ce qui doit arriver. Pour l'instant, on est encore sous le temps de la grâce. D'accord ? Christ est mort, Christ est ressuscité, il est avec son Père, il va revenir. Et là, on est encore dans la période de temps entre sa mort et on attend son retour. Donc c'est le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu donne pour que les hommes se réconcilient avec lui et fassent la paix avec lui. On peut dire que ça peut sembler long, c'est un temps de grâce, c'est aussi un temps de patience, le Seigneur est patient, il attend que chacun puisse prendre sa décision, selon ce temps qu'il a choisi lui. Alors, comment se passera le retour du Seigneur ? 1 Thessaloniciens 4, 13. Paul leur dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Voilà ce qu'il explique. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Verset suivant. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Waouh, c'est très clair, hein. Le Seigneur, il est très clair, c'était une parole du Seigneur. Hein. Paul dit, c'est les paroles du Seigneur, donc il ne fait que répéter. Hein. Voilà, Jésus revient, il y a un moment, vous avez vu, il y a un son, il y a une voix, il y a une trompette, et à ce moment-là, le Seigneur revient, c'est très glorieux, et en même temps, il va relever. Donc ceux qui sont déjà morts avec Christ, ils ressuscitent d'abord. Ceux qui seront encore vivants à cette époque-là, ils sont emmenés aussi dans les airs. Tous, ils partent dans les airs avec le Seigneur. Et là, on arrive vraiment dans les temps de la fin. C'est ce qu'on va voir à présent, tous les événements qui vont s'enchaîner. Thomas Pesquet, vous savez, le spationaute français, il a fait une aventure formidable. Thomas Pesquet, vous voyez qui c'est, hein ? Ce jeune homme qui est parti dans la station orbitale internationale. Il a vécu 6 mois dans l'espace. Si vous allez sur son compte Twitter, il y a des images, sur Facebook, il y a des images qu'il a prises. C'est waouh ! Et hier soir, je regardais une vidéo qui a été filmée dans la station orbitale. Ils ont vraiment mis une webcam et il y a un spationaute qui se déplace et qui vous montre un peu l'intérieur. Avec, on voit la Terre, c'est formidable. On se dit, c'est extraordinaire. Hein. Vous savez à quelle altitude il était, par curiosité ? Vous savez à quelle altitude se trouvait la station ? Ouais, c'est un petit tunnel entre 300 et 400 km. C'est comme si vous alliez à Lyon, hein. C'est pas très loin. Hein. On a l'impression qu'il était des dizaines de milliers, 300 km en fait. Mais il met beaucoup de temps pour y aller parce qu'il faut qu'il tourne, il tourne, il tourne pour arriver à une certaine vitesse et tout. Il faut 50 heures pour y aller. À Lyon, on y va en beaucoup moins de temps. Mais parce qu'il faut arriver doucement, prendre l'altitude et se mettre au bon niveau, c'est assez complexe a priori. Thomas Pesquet est formidable, un garçon ingénieux, talentueux, enfin, extraordinaire. Il est pilote de ligne à 20 ans, enfin extraordinaire. Mais dites-vous un truc, c'est que si vous êtes sauvé, vous allez voir encore plus beau que Thomas Pesquet. Hein. Parce que quand on va être enlevé dans les airs, on ne sera plus à 300 km. Hein. On va aller certainement beaucoup plus haut. Hein. Voilà. En tout cas, vous verrez, on verra tout ça. On va se réjouir de la création du Seigneur et ça va être formidable. Le retour de Christ, on l'attend et ça va être un retour glorieux, mes amis. Ça ne va pas être juste, ok, Jésus revient tranquillement, comme il est arrivé la première fois. La première fois, il y a eu un peu des anges à la naissance, mais ça se passe dans un petit coin du monde perdu. Si vous étiez, enfin, pas vous, ceux qui étaient à l'époque en Australie, en Amérique du Sud ou je ne sais où, ben, ils ont bien su, hein, ça leur est venu aux oreilles après, c'était toute discrétion malgré tout. Hein. Mais par contre, le retour, il est glorieux, vous allez voir. On voit tous ces détails-là dans Apocalypse, les derniers chapitres de l'Apocalypse, il y a beaucoup de détails. Et nous, on va regarder Apocalypse 19, versets 11 à 16. On voit celui qui va arriver, là. Il y a un cavalier, vous allez voir, vous allez essayer de le reconnaître. Ça, c'est Jean qui reçoit une révélation très spéciale. Il reçoit une révélation de ce qui va se passer dans les temps de la fin qu'on est en train de regarder à présent. C'est lui qui a vu tout ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur lui a accordé une grâce incroyable Mais nous en profitons aussi, nous sommes les héritiers aussi, les co-héritiers de cette grâce, vu qu'on en profite aussi, on a les paroles authentiques. Alors, qu'a vu Jean ? Il nous dit « Je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait, on va essayer de voir qui c'est, s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ou plusieurs couronnes, selon les traductions. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » S'il a un nom écrit qu'on ne sait pas qui c'est, il va falloir déchiffrer, il va falloir deviner qui c'est. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors, peut-être on a une indication. Son nom est la parole de Dieu. Un deuxième indice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, donc c'est un chef, sur des chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Gardez bien en tête, il les pétra avec une verge de fer, on va revenir après. Il avait sur son vêtement et sur ses cuisses un nom écrit. Il y a un nom qu'on ne connaît pas, mais il y en a un qu'on peut déchiffrer, c'est « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà, et après la suite, etc. Donc, on a quand même des indications. À votre avis, vous avez déchiffré ? Vous avez deviné qui c'était ? Bon, il a un nom inconnu, mais bon, il y a quand même suffisamment d'éléments. Il a des couronnes, donc c'est un roi, mais surtout, il a appelé la parole de Dieu, premier nom qu'on connaît. Sur sa cuisse, il y a un nom qui est écrit, c'est « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il a un vêtement qui est rempli de sang. Vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ, bien sûr, qui revient ici dans sa gloire. Et puis, il a l'armée derrière qui est avec lui. Et voilà, le Seigneur revient, mes amis. Ça va être glorieux, hein ?
Amen.
Ça va être glorieux. Vous avez vu le film Independence Day ? Il y a longtemps ? On l'a revu ces jours-ci, voilà. Et on se disait, bah, tiens, c'est un peu... Voilà, alors, les hommes s'attendent à rien du tout. Ils vivent normalement et tout ça. Tout normal, la vie est normale. Et puis d'un coup, boum, en une demi-heure, il y a des vaisseaux partout sur la Terre, machin. Voilà, le monde est pris d'assaut. Bim, boum, boum. Ça se passe en une demi-heure. Retour du Seigneur, c'est comme ça. Hein. C'est un moment où personne s'y attend. Et puis ça va se passer très vite. Et puis ça va être glorieux. Le Seigneur arrive et là, tout le monde va le voir. Alors, je rentre pas dans les détails ensuite parce que le temps nous a un peu compté aujourd'hui. Puis alors là, c'est presque qu'il faudrait faire une étude suivie pendant plusieurs semaines. Bon, on va juste le regarder un petit peu, le survoler. Je vous donne juste, j'espère, envie d'aller dans l'Apocalypse après pour regarder par vous-même. Jésus revient, donc il revient là sur son cheval, etc. Puis après, il va prendre tout le monde avec lui. On va être avec lui. Et ensuite, alors, bon, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plusieurs doctrines. Nous, ce que l'on comprend, et moi, ce que j'interprète assez facilement, ça me semble assez clair dans la Bible. Après, voilà, il y a toujours plusieurs interprétations. Mais en tout cas, ensuite, l'étape suivante qui est très claire, c'est qu'il y a une étape, il y a une période qui dure 1000 ans. C'est une période durant laquelle Christ va régner avec les siens. D'accord ? C'est un règne de domination. C'est ce qu'on voit un tout petit peu plus loin dans l'Apocalypse. C'est juste après, c'est Apocalypse 20. Les événements s'enchaînent. Apocalypse 20, versets 1 à 6. C'est une période où Christ règne et le diable, il est ligoté. À lui, par contre, il n'a plus de pouvoir sur terre. Le seul qui a pouvoir sur terre à ce moment-là, c'est le Seigneur. Et le diable, il ne peut plus rien faire. Donc, c'est une période qu'on attend de nos voeux, on appelle de nos voeux. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc là, il y a des trônes, il y a des personnes qui ont le droit de s'asseoir dessus et de juger. Rappelez-vous de ça, on va y revenir. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, résurrection, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Waouh! Ça va être assez incroyable. Le Seigneur, il sera sur terre pendant 1000 ans. Le diable, il sera enchaîné. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tentation, on va dire. Il n'y aura plus les petites voix, toutes les manipulations de l'ennemi pour essayer de nous faire chuter jour après jour. Ce sera un règne où il n'y aura que le Seigneur. Et ce sera nous et lui. Là, ce sera la vraie justice. On verra vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que vous allez voir qu'après, ça va nous réveiller quelque chose d'un petit peu de notre caractère de pécheur. Est-ce que vous êtes prêts à régner avec le Seigneur, mes amis ? Ouais, amen. Il faut se tenir prêt, hein, parce que le Seigneur, il a dit, hein, il ne va pas faire ça tout seul. Hein. Son peuple, il va régner avec lui. Hein. Vous allez avoir des responsabilités. Hein. Des fois, on se dit, dans le ciel, je crois comprendre que dans le ciel, c'est un espèce d'endroit où un petit nuage cotonneux, où on est tous en train de chanter Alléluia dans l'éternité. Bon, ben, c'est pas ce que dit la Bible. Hein. La Bible dit, non, il y aura les nations à juger, il y aura, voilà, il y aura de l'autorité à avoir, etc. Vous allez voir après. Ça va être, il va y avoir des choses à faire. Hein. Vous inquiétez pas. On pourrait se dire, l'histoire se termine. Bon, Jésus revient, voilà, il instaure son règne de 1000 ans, il va régner éternellement, il n'y a plus de diable, donc le problème c'était le diable, et puis maintenant il n'y a plus de diable, donc il n'y a plus de problème, et voilà, c'est la fin de l'histoire, et on est toujours avec le Seigneur, alléluia. Et c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a un problème, c'est que s'il y a du péché dans le monde, c'est la faute de qui ? C'est notre faute à nous, premièrement. Il y a un passage qui dit... C'est de votre cœur que sortent les pensées mauvaises. Ensuite vient la tentation. Après la tentation, le péché, la mort. Et quand on lit ce passage, on comprend bien que le problème, c'est pas le Dieu, hein. C'est pas Satan. C'est notre cœur à nous qui nourrit les pensées mauvaises, en fait. Et le diable, lui, ce qu'il fait, c'est juste attiser le feu, en fait. Mais le feu, c'est nous qui le démarrons. Hein. L'allumette qui est craquée, c'est nous. Hein. Et après, lui, il vient juste alimenter un petit peu. Quand ça se ralentit, il met un petit peu de braise dessus pour que ça chauffe bien. Ce qu'on va voir à présent, c'est que règne de 1000 ans sur terre, donc toutes les nations sont bien soumises au Seigneur, tout va bien, parce que tant que le diable est enchaîné, maintenant le diable va être libéré. Et là, ce qu'on va voir, c'est que... On va voir le cœur de l'homme tel qu'il est, en fait. Regardez. C'est juste après, Apocalypse 7 à 10, c'est les versets suivants. Les 1000 ans sont accomplis. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les hommes vont combattre Satan en disant « Nous appartenons à l'Éternel, nous ne voulons pas de toi, Satan », et ils le ligotèrent, et ils le... voilà, etc. Pas du tout. Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, ça vous retrouvez dans Daniel, il y a deux chapitres qui parlent de Gog et Magog. « Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. » Toutes les nations, là, ça y est, ils se réunissent, sont comme le sable de la mer. Là. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Gilets jaunes, rébellion. Je stigmatise pas les gilets jaunes, je prends juste une image. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Ça dure pas longtemps, a priori, la bataille, hein, c'est boum. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète ? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, mes amis, comment ça se passe. On aurait pu se dire, pendant 1000 ans, les nations étaient endoctrinées, évangélisées, je ne sais pas comment on pourrait dire, les gens allaient à l'église tout le temps, enfin voilà, ils étaient des saints, c'était remarquable, il n'y avait plus de diable, etc. Et on aurait pu se dire, waouh, vraiment, là, c'était vraiment le diable le problème. Hein. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il est libéré ? Ça ne fait pas longtemps, hein. Il est libéré, il séduit les nations, elles accourent, et elles se mettent toutes en rébellion, ils arrivent devant la ville sainte, et allez, on va combattre les saints, et on va combattre Dieu. La rébellion, hein, la rébellion, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a pas qu'en France hein, qu'on est des rebelles avec la Révolution française, c'est bien les nations du monde entier, hein, qu'on soit français, ou argentin, ou je ne sais quoi, ou africain, ou autre. On est tous pareils, les amis. Ce règne sera un règne glorieux. Il y a plein de petits détails, j'aurais aimé m'y arrêter, mais on n'aura pas le temps. Il y a un étang de feu et de soufre. Hein. Feu et de soufre, ça nous rappelle la Genèse avec Sodome. Hein. C'était une punition de feu et de soufre. Il y aurait peut-être des choses encore à regarder ici. Gog et Magog, Daniel, je crois que c'est chapitre 19 à 21, il me semble, vous jeterez un œil. Il y a deux chapitres entiers sur ce qui se passera. Ça vaudrait le coup de regarder, mais on n'a pas le temps. Cette partie-là, c'est ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 15, qu'on a vu au préalable. Regardez, on va relire le verset 25. Même 24, on peut lire déjà 24. Allez, 23. Merci. Christ comme prémisse, donc c'est la résurrection à ceux qui partent. appartiennent à Christ. Lors de son avènement, donc on a déjà vu l'avènement, le cheval qui arrive avec le Seigneur. Ensuite, verset 25. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses marchepieds. Donc là, c'est le combat du millénium. Et ensuite, on revient au verset d'avant. Ensuite viendra les temps de la fin, car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à la puissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Et je ne suis pas en train de jouer avec le texte pour en lui faire dire ce que j'ai envie de dire. Regardez bien qu'à la fin, ça finit. Il faut qu'il remette le royaume à son Père après avoir réduit à la puissance toute domination, toute autorité. Et regardez le verset d'après. Car il faut qu'il règne avant, hein, auparavant, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, avant de le remettre au Père, il faut déjà qu'il ait vaincu, hein, qu'il ait lutté, qu'il ait gagné. C'est pour ça que le 25, il est avant 24, mais c'est juste une figure de style. On n'est pas en train de tordre des Écritures pour essayer de leur donner un sens différent. D'ailleurs, l'enchaînement dans Apocalypse, il est très clair. Hein, il parle de lui-même. Et bien justement, ça y est, Jésus a triomphé à présent. C'était le dernier acte rébellion des hommes envers Dieu. Ça va sceller le destin de l'humanité. À présent, voilà, c'est acté. C'est fini, c'était la dernière bataille, le dernier combat. Maintenant, il va pouvoir y avoir instauration du royaume éternel de Dieu. Et c'est la suite de l'Apocalypse. On revient dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Ça s'enchaîne, hein. Tous les premiers versets de l'Apocalypse 20, ça explique bien le déroulé. Qu'est-ce qui se passe à présent ? La bataille finale, terminée, le feu est descendu, etc. C'est fini. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset suivant. Voilà, oh, il manque un mot. La mer rendit les morts. Ah ben le mot, il va être en bas, je ne voyais pas écrit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y a ici un trône au début. S'il y a un trône, c'est qu'il y a un roi. Il y a quelqu'un qui règne. Hein, et on le voit, il y a quelqu'un qui est assis dessus. S'il y a un trône, il y a un roi. Et c'est à ce moment-là, que ce roi va mettre en place son royaume éternel. Mais auparavant, il y a encore une petite étape. C'est qu'il y a un jugement. Voilà, il faut déjà qu'il y ait un jugement de chacun selon ses œuvres avant que Dieu détruise la mort pour toujours. Donc il y a des livres qui sont ouverts ici. Et puis voilà, on va arriver devant le Seigneur et puis il y aura ce grand trône. Voilà, les hommes vont arriver devant lui, puis il y aura des livres. Hein. Alors il y a des livres, donc il y a des livres individuels, chacun pour sa vie. Hein. Alors voilà, Dominique, alors toi tu es né, Dominique, dans telle famille, je t'avais placé là. Tu te rappelles quand tu étais petite, Dominique ? Voilà. Adolescente ? Ah, Dominique ! Rebelle ! Moi aussi, hein. Voilà, après t'as grandi, puis après t'as... À un moment, tu te rappelles de cette personne qui t'a parlé de moi ? Tu te rappelles comme t'as cru, regarde. C'est marqué, là. Hein. Tout est là. Hein. Tout est là. Hein. Toutes les fautes à assister. Tu te rappelles toutes les réunions que t'as fait à l'église ? Tout ce que t'as pu faire ? Les évangiles que t'as donnés ? T'as donné un évangile, là. Tu te rappelles ce jour-là où t'as donné un évangile ? Tu te rappelles pas, hein. Eh bien, cette personne s'est convertie, il est là-bas. Il est venu, s'il est là, s'il a le droit d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est parce que tu lui as donné un évangile. Il y aura certainement plein de détails comme ça, ça va être extraordinaire. En tout cas, on va être jugé selon nos œuvres. Alors, il ne faudra pas qu'on soit tout rouge en disant... Alors, un tel, oula. Alors, pourtant, toi, tu étais bien né, toi, quand même. Tu étais dans une famille chrétienne, je t'avais accordé une grâce. Tu as entendu l'évangile depuis que tu es tout petit. Depuis tout petit déjà, tu étais à l'école du dimanche. Tes parents t'ont fait des études bibliques, t'ont appris les bonnes choses... Ouh là là, ça allait bien, puis là je viens de voir qu'en grandissant, bah autant ça commence bien, bof, 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 bof. Et jusqu'à la dernière page, bof, il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dans le livre, il n'y a rien. Ça commence bien, je t'ai accordé une grâce, et puis après, qu'est-ce que t'en as fait ? Rien. Pas toi, tu vas pas là, tu vas là. Et là, ce n'est pas le royaume éternel. Là, c'est ce fameux étang de feu, etc. C'est là où tu vas passer l'éternité. Waouh. Attention, hein, c'est bien tout ce qui passe là. Et puis, il y a les livres qui sont ouverts. Alors, si on a donné son cœur à Jésus-Christ, il y a un autre passage qui dit que il y a le tribunal de Christ. Et de toute façon, si vous avez cru, si vous avez donné votre cœur à Jésus, on va y venir après, vous gagnerez le royaume éternel. Mais comme certains, ce sera comme au travers du feu. Voilà, ce sera... Il y a juste eu le salut, puis après, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, ok, tu as le royaume éternel, mais tu passes comme au travers des flammes, quoi. Puis après, les récompenses, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ce point-là, cette partie-là du royaume éternel, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens, verset 24. Si on peut revenir. Puis-je... voilà. 1 Corinthiens 15, 24. Donc là, c'est ce moment-là, il n'y a pas forcément le jugement, mais c'est... Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Et verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors là, la mort, elle va être détruite pour toujours, on va être débarrassé. Voilà, c'est le jugement final, c'est la fin de l'histoire de l'humanité. Après, c'est royaume éternel pour ceux qui auront cru, les temps de feu pour ceux qui n'auront pas cru. Réfléchissez où vous en êtes avec le Seigneur à présent. Parce qu'ensuite, le Seigneur, il a préparé quelque chose d'assez magnifique pour ceux qui auront cru. Il a préparé une nouvelle création avec un nouveau cieux, un nouveau ciel, pardon, et une nouvelle terre. Et regardez, l'Apocalypse nous le présente. C'est Apocalypse, c'est un peu après. 22, versets 1 à 5. Verset 1 à 5. Voilà. Apocalypse 21, verset 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ça va être magnifique. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, etc. etc. » Après, vous irez ensuite. Hein. L'histoire, mes amis, là, elle est terminée, elle est consommée, c'est fini, c'est terminé. Ici, il y avait des choix à faire, c'était bien avant la mort. La boucle sera bouclée, l'histoire est accomplie. Le Seigneur avait fait une création magnifique, il y a eu le péché, les hommes voilà, sont sombrés tous dans le péché, on était tous des pécheurs. Christ est venu il y a 2000 ans donner sa vie sur la croix pour nous. L'acte, le pivot de l'histoire d'humanité, c'est il y a 2000 ans quand Christ vient sur terre donner sa vie pour nous. Juste avant, il y avait un peuple qui avait une loi, et puis les autres, c'était un peu la loi de la conscience. Mais là, c'est vraiment Christ meurt pour les péchés de tous les hommes. Et on ne sait plus les juifs ou les non-juifs ou les païens, les grecs, etc. C'est tous les hommes, tous ceux que nous représentons aujourd'hui. C'est le pivot de l'histoire. Et à partir de là, le Seigneur, il lit la cartographie ensuite à partir de cet événement fondateur. Qu'est-ce que vous avez cru ? Que Christ était mort pour vous ou pas ? Et en fonction de ça, votre éternité, elle dépendra. Voilà. Où vous irez dans le royaume éternel, où vous irez dans les temps de feu. C'est suffisamment important pour le redire ce matin. Si on est un peu, si on regarde un petit peu la Bible, comment elle est construite, on voit un petit peu tout ça, comment le Seigneur boucle hein, l'histoire d'humanité. Si on analyse les premiers chapitres de la Genèse et si on regarde les derniers chapitres de l'Apocalypse, c'est-à-dire on prend les premières pages de la Bible, les dernières, et on fait un parallèle, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans Genèse 1 ? J'aurais dû vous faire une petite image, vous savez que j'aime bien ça, mais je n'ai pas eu le temps, je le confesse. Gardez bien ça en tête. Genèse 1, il y a une création. D'accord ? C'est la création des cieux et de la terre. Donc Genèse 1, la Bible commence sur une création. Ensuite, Genèse 2, il y a un mariage. C'est les premiers hommes, donc c'est Adam et Ève. Une création, un mariage. Ensuite, il y a un début, c'est le début de Satan qui arrive, il rentre en scène, chapitre 3. Et on voit la chute de l'homme. Donc, création de Dieu, mariage de l'homme et de la femme, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas de péché encore dans le monde. Donc, le mariage n'est pas une malédiction, c'est bien une bénédiction. Il est instauré avant le péché. Ensuite, il y a Satan qui arrive, c'est ses débuts. Et ensuite, il y a la chute de l'homme. Et si on regarde Apocalypse, on fait le parallèle comme ça, on les met vraiment face à face, et on a la même chose, mais pas dans le même ordre. Apocalypse 18, on va regarder les derniers chapitres, vu qu'on a vu les premiers de Genèse. Apocalypse 18, il y a une chute. Ça commence par une chute, c'est la chute de Babylone. Babylone la Grande, c'est la fin d'un système, c'est la fin du monde. Chute de Babylone. Ensuite, il y a un mariage au chapitre 19, celui des noces de l'agneau. Ensuite, il y a une fin. On avait le début de Satan. Là, maintenant, on a la fin de Satan. Ça y est, il est détruit. Et après, on a une création. C'est les nouvelles, c'est des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, Apocalypse, c'était création, mariage, début de Satan, chute. Et là, on a chute, mariage, avec les noces de l'agneau. Ensuite, la fin de Satan, et ensuite une création. Vous voyez qu'on a la même idée, simplement, ce n'est pas structuré de la même façon. Les événements vont se dérouler de façon différente. Ce n'est pas les seuls parallèles entre la Genèse et l'Apocalypse, on pourrait en voir d'autres. Je vous redonne une autre image. Au départ, dans la Genèse, qu'est-ce qu'on trouve? Au tout début, il y a un paradis. Hein, un paradis, il y a le jardin d'Éden qui est là, il y a ce paradis, là, ce jardin qui est magnifique, que Dieu donne aux hommes. Ensuite, dedans, il y a plein de choses, mais il y a surtout un arbre qui est important. Il y a un arbre, c'est celui de la connaissance du bien et du mal, et c'est là où s'est jouée toute l'histoire, hein. Qui aurait cru qu'au pied d'un arbre, un simple fruit insignifiant allait transformer l'histoire de l'humanité? Pourtant, il y a bien un paradis, il y a un arbre, au moins un, il y en a d'autres, il y a l'arbre de vie aussi, mais il y a celui de la connaissance du bien et du mal, celui qui nous intéresse. Il y a un homme, c'est Adam, de qui vient la mort, et il y a une épouse, il y a Ève, qui est là. Donc il y a un paradis, un arbre, un homme, par qui vient la mort, et une épouse, Ève. Et à la fin, il y a quoi? Ben, il y a un paradis retrouvé. Dieu refait les choses, il recommence, il redonne un endroit. Dedans, il y a un arbre. Il y a l'arbre de la vie qui va guérir les nations. Il y a un homme, Christ, par qui vient la résurrection. Adam, c'était la mort, Christ, c'est la résurrection. Et puis, il y a une épouse, il y a l'Église aussi. Donc, on pourrait encore refaire un parallèle entre Genèse et Apocalypse. On dirait, Seigneur, si c'était des hommes qui avaient écrit tout ça, ils seraient super intelligents, parce que pour avoir bien structuré tout ça, bien entendu... C'est la parole de Dieu et on voit qu'à chaque fois, elle est parfaitement cohérente. J'ai fait une prédication à étage ce matin. J'ai fait 3 étages. Je viens de faire le premier. J'ai encore 2 étages, mais je regarde le temps. Est-ce que j'ai le temps étage 2, étage 3? On finit à quelle heure en dos? Qu'est-ce qu'on se dit? On a une réunion à midi, hein, importante pour tous ceux qui ont fréquenté l'église ces dernières semaines. On a une réunion importante. On a un message à vous faire passer si vous êtes familier de l'église. Il faut vraiment qu'à midi on ait fini. Il faut qu'on s'est salué les uns les autres avant. Allez, je vais tenter l'étage. Je vais insister sur l'étage. Je vais venir sur l'étage 3 et si on a le temps, on fera l'étage 2. Allez. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais voilà, l'histoire est en cours. On est encore sur les temps de la grâce. Ce qui est important de retenir pour nous, c'est que Christ va revenir. Voilà. Le plus important, c'est de se dire aujourd'hui, on est en 2020. À tout moment, le Seigneur peut revenir, d'accord? Et Jésus, est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il a dit tout ça, Jésus? Après tout, on dit, bon, c'est bien, hein, tout ça, mais est-ce que Jésus en a parlé? Bien sûr qu'il en a parlé. Regardez dans Jean 14, versets 1 à 3. Jésus a parlé de son retour. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur n'avait rien caché. Hein, tout à l'heure, Andou a sorti ce très beau verset, effectivement, sur le voile qui s'est déchiré, etc. Là, le voile est rompu. Hein, le Seigneur dit tout. Hein, il dit bien les choses. Et il dit, même si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Hein. Il précise bien, hein. Donc, c'est vrai ce que je vous dis, il y a plusieurs demeures. Je vais vous les préparer, je vous prépare une place, et après je vais venir vous chercher pour en prendre la domination. Alors est-ce que tout le monde est concerné par ça? Est-ce que c'est pour toute l'humanité? Et puis Dieu est infiniment bon, et voilà, donc c'est pour tout le monde. Regardez bien le début, verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors c'est pour qui finalement? Eh bien c'est pour ceux... qui ont cru en Dieu, mais qui ont cru aussi en, en Jésus-Christ. Hein. C'est pas « je crois en Dieu ». D'accord, c'est bien. Tu crois en Jésus-Christ ? Non, par contre, moi je crois en Dieu, hein. Je crois en Bouddha, je crois en... je sais pas qui d'autre, même si Bouddha c'est pas vraiment un dieu en tant que tel, enfin, je suis pas un spécialiste, mais bon. Moi je crois en un dieu, je crois en Dieu de telle religion. Mais le Seigneur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Regardez, on va relire ce verset qu'on a lu plusieurs fois ces dernières semaines, mais il est tellement important dans ce contexte, c'est Romains 10, verset 9. Parce que là, ça ne concerne pas tous ceux qui croient en Dieu, les croyants au sens large, ni même ceux peut-être qui sont à l'église tous les dimanches. Hein. On peut venir à l'église tous les dimanches, ou plus, en faire une tradition, une culture, ou pour accompagner quelqu'un, et puis pas du tout donner son cœur pendant la prédication, on écoute à peine. Que nous dit Romains, verset 10, chapitre 10, verset 9 ? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a une condition, c'est pas si tu crois en Dieu, tu seras sauvé. C'est ce que beaucoup disent, hein. Croire en Dieu, bon, voilà, et puis ça doit être suffisant pour le salut, etc. Avec ça, normalement, je dis que je crois en Dieu, j'ai une Bible à la maison, où je l'allais d'ailleurs, je peux aller ranger dans un carton quelque part. En tout cas, elle est là, j'ai une Bible et je vais à l'église. J'y vais, hein. Très souvent, peut-être même tous les dimanches. Normalement, quand Dieu va me juger, il va dire, ok, t'as dit que tu croyais en moi, t'as une Bible et tu vas à l'église. C'est suffisant ? A priori, ça peut le faire. Non. Romains 10, verset 9, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur, pas seulement écouter dans ses oreilles, mais bien croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour être sauvé. Donc c'est pas tout le monde, c'est bien ceux qui auront confessé Jésus-Christ. Alors dans quelle catégorie vous vous situez les amis ce matin ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui finalement ne croient même pas en Dieu ? Comme ça, hein, ils sont au niveau zéro. Voilà. Ils ne croient même pas en Dieu. Les athées, voilà, même pas entendre parler de Dieu. Moi, je crois en la philosophie, je crois en la science, je crois en l'histoire, je crois en l'homme. Et ça va. Ben non, ça ne va pas. Du moins, ça n'ira pas dans quelques temps. Alors, si vous faites partie des athées, c'est un camp. Deuxième camp, c'est les croyants en sens large. Moi, je suis croyant. Vous croyez en Dieu ? Ah oui, bien sûr, je crois en Dieu. Hein. Je crois en Dieu. Vous avez une Bible ? Non, bon, par contre, vous connaissez ? Non, voilà. Croyant au sens large, ça ne suffira pas. Ou bien est-ce que vous êtes un chrétien ? Un vrai chrétien qui a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et qui a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il y a des chrétiens ? Amen ? Amen ? Ok. Voilà, si vous êtes chrétien, le royaume éternel que Dieu a préparé pour vous, qui sera la fin de l'histoire en conclusion, vous allez en prendre possession, les amis. Vous allez voir, si on a le temps encore, on va regarder 2-3 points qui sont assez glorieux. Sinon, bah, c'est les temps de feu. Et dans ces cas-là, bah, il n'y aura plus rien. Après, ce sera trop tard et vous allez souffrir durant toute l'éternité. Allez, on a encore 5 minutes et on va se faire du bien, parce qu'on est des... pour ceux qui sont chrétiens, je vais vous montrer un petit peu ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur, il a fait un royaume éternel, c'est bien déjà. Le Seigneur, ça fait 2000 ans qu'il prépare une place. 2000 ans, connaissant le Seigneur, en 2000 ans, vu ce qu'il a fait en 6 ou 7 jours, en 2000 ans, ça va être vraiment remarquable. Hein. Et bien, vous allez voir qu'il a fait encore plus beau. C'est pas fini. Il y a également des récompenses pour ceux qui rentreront dans le royaume. Le royaume, c'est pas suffisant pour le Seigneur. Il vous invite chez lui, mais en plus, il va vous faire des cadeaux quand vous allez rentrer dans la maison. Regardez, il y a des récompenses. On va en recenser au moins 7 ou 8. On va détailler, en fait. Vous savez, au début de l'Apocalypse, il y a des lettres aux 7 églises. Et à chaque fois, il y a des promesses. Regardez, Apocalypse 2, verset 7. Je vais faire rapidement, mais comme ça, au moins, j'espère qu'on sera encouragé après cette lecture de ce que dit la parole de Dieu pour nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand vous allez rentrer dans le paradis de Dieu, vous allez avoir le droit de manger quelques nourritures. Je ne sais pas s'il y aura tout ce qu'on mange ici, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est au moins ce qu'on sait qu'on mangera. Et il y aura au moins à manger de l'arbre de vie. Ah, voilà, c'est celui qui finalement nous délivre de la mort toujours. Hein. Finalement, il n'y a plus de mort. C'est l'arbre de vie. Il va également guérir les nations, cet arbre. Et vous allez voir qu'il y a encore un petit peu à manger après. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Ah, il y aura de la manne aussi. Vous mangerez, on mangera du fruit, de l'arbre de la vie. Il y aura aussi de la manne. Il y aura encore un troisième élément un petit peu plus tard. Et je lui donnerai un caillou blanc. Vous aurez un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. vous aurez un nom, un caillou blanc avec un nom nouveau. A priori, j'ai essayé de comprendre, vous allez me dire si vous le comprenez comme moi, je me suis demandé si ce n'était pas le même nom pour tout le monde, et ce serait le nom finalement qu'on avait vu du cavalier blanc tout à l'heure, de Jésus, parce qu'il y avait aussi un nom que... voilà. Mais non, c'est bien a priori un nom individuel, parce que si on regarde bien sur ce caillou, il y a un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. Alors si on a tous les chrétiens ici ce matin, on a tous le même caillou avec le même nom, bah, la fin de la phrase n'a plus de sens. J'ai créé un nom nouveau que personne d'autre ne connaît, hormis ceux qui le reçoivent à la limite, mais sinon ça n'aurait pas de sens. Donc a priori, il y a bien un caillou individuel, et sur ce caillou, vous aurez un nom nouveau. Il n'y a que vous qui connaîtrez ce nom et Dieu. Étonnant, hein ? On va bien savoir ce qu'il y a de marqué sur les noms. Parce que, connaissant nos cœurs, on se dit qu'il ne doit pas y avoir grand-chose, mais pourtant, voilà, pour le Seigneur, on est précieux, il a prévu un caillou, vous avez un nom nouveau, il n'y a que vous qui le connaîtrez. Ce sera entre vous et Dieu. C'est pas fini. Il y a de la nourriture, il y a un caillou, il y a un nom nouveau, mais il y a aussi autre chose. Apocalypse 2, versets 26 à 27. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Lisez bien la suite. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les verres d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous vous rappelez tout à l'heure le chevalier, là le cavalier qui venait, Jésus, il avait reçu le pouvoir de dominer les nations avec un sceptre de fer. Et là, ceux qui vont hériter le royaume, eh bien, ils vont avoir autorité sur les nations. Là, qu'il y a le jugement, on a vu tout à l'heure avec le millénium, etc. Les chrétiens auront autorité sur les nations. Et c'est eux aussi qui dirigeront avec un sceptre de fer. Regardez, il les pètera, donc ça parle des chrétiens, avec un verge de fer comme on brise les verres d'argile. Et là, ça ne parle pas du Seigneur, parce que le Seigneur a dit « Vous pèterez avec une verge de fer, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Donc il ne parle pas de lui, il parle de nous, là. Et ça, c'est les chrétiens. Ils auront aussi le même pouvoir que Jésus, hein, pouvoir d'autorité, de domination. Ça va très loin, hein. Le Seigneur est bon, il délègue, hein. Le Seigneur va déléguer son autorité aussi. C'est pas fini, vous allez avoir aussi des vêtements. Vous avez une garde-robe remplie, plus ou moins, ok, regardez Apocalypse 3:5. Il va y avoir un renouvellement de la garde-robe, là. Et puis les codes couleurs, vous allez voir que ça va être un peu réducteur, mais celui qui vaincra, Apocalypse, pardon, 3:5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous aurez une garde-robe, mes amis. Alors, vous allez être peut-être un peu frustrés parce qu'il n'y aura que du blanc. Voilà. C'est peut-être les couleurs. Bah, là, il n'y aura que du blanc, mais c'est la couleur de la sainteté aussi, hein, c'est une image. Vous aurez une belle garde-robe avec des vêtements blancs.
D'accord.
Et votre nom ne sera pas effacé du livre de vie. Avant votre naissance, vous avez votre nom dans un livre de vie. Et en fonction de votre adhésion au sacrifice de Christ sur la croix ou pas, votre nom, il reste ou il est effacé. Au départ, il est écrit, et sinon, il est effacé. C'est pour ça qu'un bébé qui meurt en bas âge, qui n'a pas eu de la connaissance du péché, son nom, il est déjà écrit. Rappelez-vous, quand David, il a un fils avec Bathsheba, l'enfant meurt, et David, il est dans le deuil, et puis une fois que l'enfant lui dit qu'il est mort, il se rhabille bien, puis les gens disent, on ne comprend pas, voilà. Tant que l'enfant était souffrant, était déprimé, puis maintenant qu'on te dit qu'il est mort, tu reviens à la vie, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, c'est pas lui qui va venir à moi, c'est moi qui vais venir à lui. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui va revenir vers David, c'est David, quand il sera mort, qui retrouvera l'enfant. Et on comprend bien qu'un enfant en bas âge, qui n'a pas eu le temps de vraiment concevoir, etc., le péché, ben, il est avec le Seigneur. Son nom était inscrit. Par contre, si, en grandissant avec la connaissance du péché, il n'y a pas de... se repentit pas avec la croix de Christ, et bien à ce moment-là, le nom, il est effacé. Mais au départ, il est écrit. Voilà. Apocalypse 3:12, c'est pas fini, mais moi j'ai bientôt fini. Vous allez voir que c'est pas terminé, vous avez encore des choses, le Seigneur a encore préparé. Celui qui vaincra, je ferai de lui quoi ? Une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, sur la colonne, là, le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Dans le temple de Dieu, on sera pour toujours. Et une colonne, c'est pas juste une petite décoration. Là, vous serez un petit tableau, là, une petite touche artistique. Non, c'est une colonne. Colonne, c'est sur quel... ça permet de consolider l'édifice. C'est là où on s'appuie, hein, pour que l'édifice soit stable. Merveilleux, on pourrait rester plusieurs semaines. On va passer à un autre privilège. Il y en a encore deux au moins. Apocalypse 3:21. Regardez ce que le Seigneur prépare aussi. Alors ça, pour moi, c'est juste impensable. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur va dire, Assis-toi sur mon trône avec moi. Vous vous rendez compte ? Dieu a donné le droit à son fils de s'asseoir sur le trône, et le fils nous dit, toi aussi, viens et tu t'assois avec moi. Vous avez vu Narnia, le film ? Vous vous rappelez à la fin ? Comment ça finit ? Avec les trois enfants, dans le premier épisode. Ils sont intronisés, il y a le roi Aslan, et puis ils reçoivent leur couronne, leur titre de roi, etc. Et ils ont le droit de s'asseoir sur un royaume, et ils sont là, ils se regardent, ils comprennent pas ce qui leur arrive, parce qu'ils savent bien qu'ils sont... Voilà, ils méritent pas tout ça, quoi. Mais ils sont rois de la cité, etc. C'est leur titre à présent. Eh bien, ce sera nous aussi. Hein. Le Seigneur va nous dire, assis-toi sur mon trône aussi. Allez, je finis avec une dernière image, Apocalypse 21, versets 5 à 7. Apocalypse 21, versets 5 à 7, on est tout à la fin. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de l'eau de la vie. Donc rappelez-vous, vous alliez manger le fruit de l'arbre de la vie, vous alliez manger la manne cachée. Et vous allez boire aussi, ce sera la source de l'eau de la vie et ce sera gratuit, les amis. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Voilà, Dieu l'a promis, tout ça. D'accord ? Tout ce que vous avez entendu là, c'est pour vous, les amis, si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ. Il y aura plein de choses dans le royaume éternel de Dieu. Alors, je vais conclure. On a vu juste les temps de la fin, la fin des temps. C'est l'enlèvement de l'Église d'abord. Christ vient, il reprend ses enfants avec lui, ceux qui lui appartiennent. Ensuite, il y a l'instauration d'un règne de 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium, où il y aura le jugement des nations. Ensuite, il y a la bataille finale entre les hommes et Satan et Dieu, hein, une fois que Satan a été libéré. Victoire décisive du Seigneur, jugement final, condamnation de Satan et de la mort, ils sont jetés dans les temps de soufre. Après, il y a l'instauration du royaume éternel de Dieu, et d'un côté, il y aura ceux qui rentreront dans ce royaume, et puis ceux qui iront dans les temps de feu. Alors, concrètement pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Si vous êtes chrétien, partagez ce que le Seigneur a fait pour vous. Parlez du Seigneur autour de vous. N'ayez pas peur, on a peur, et je le sais, moi le premier, de dire « Je vais les déranger, je vais perdre mes amis si je lui parle du Seigneur, ou est-ce que c'est le bon moment ?» C'est vrai, si le Seigneur il revient dans 5 minutes, on va se mordre les doigts de dire « J'ai pas parlé à ma mère, à mon frère, à mon copain, à mon je sais pas quoi. » Donc, je veux parler à moi en premier, hein. N'ayons pas peur, hein. Prêchons, hein. Partageons ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qui arrive, ce que le Seigneur a déjà dit. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, l'importance de faire la paix avec Dieu, j'espère que ça a été souligné ce matin, j'espère que vous avez compris. Il faut pas tarder, quoi. Parce que après, ce sera trop tard, alors. Royaume éternel ou perdition, je crois qu'entre les deux, il faut choisir son camp, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à tergiverser, quoi. Alors voilà, mes amis, je vais conclure en priant. J'espère que la parole de Dieu vous aura encouragé, qu'elle vous aura donné du baume au cœur, que vous serez impatient du retour du Seigneur, et que je vous le prierai encore plus instamment à ce moment. Seigneur, en effet, on veut te remercier encore pour ce que tu as prévu d'avance, qui est merveilleux, glorieux, Seigneur. C'est magnifique, ça nous dépasse. Comment on mérite tous ces cadeaux, Seigneur, et même de recevoir l'autorité sur les nations comme tu l'as eu, tu nous la transfères, Seigneur, et comment aussi tu peux nous permettre de nous asseoir sur ton trône, Seigneur, alors que, Seigneur, ce que tu as fait est incroyable et nous n'aurions pas pu l'accomplir et nous sommes juste indignes, Seigneur, tous de cela. Mais tu l'as fait, tu l'as dit et tu le donnes. Alors gloire à toi, Seigneur. Permets-nous justement chaque jour de travailler encore nos cœurs qui sont mauvais pour... Seigneur, ne pas salir ton nom encore, ne pas rendre tout ceci vain, Seigneur, et ne pas te donner encore du travail. Au contraire, Seigneur, donne-nous des serviteurs humbles, zélés, fidèles, Seigneur, qui n'aient pas peur de parler de toi et d'annoncer ton retour. Nous t'en bénissons dans le nom de Christ. Amen. Amen.